Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Clémence Bodoc.
Je suis Esther Meunier.
Vous écoutez Activiste,
une nouvelle approche de l'action politique.
Elle devrait être en classe.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
I am not a believer in climate change.
C'est papa et maman qu'on assassine.
Vous vous transformez en véritable chien de garde de la police de la pensée.
Le choc n'est pas un choc climatique.
Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
Oh, ça suffit là.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste, une nouvelle approche de l'action politique. Changer le monde à coups de baguette magique, ça n'est pas possible, et sans magie, il faut du temps. Aujourd'hui dans Activiste, Esther et moi nous vous emmenons à la rencontre d'une entreprise. Oui, il est possible de changer le monde en gagnant sa vie. C'est ce que nous allons voir à travers le parcours professionnel et personnel de Yuna Zerouki. Bonjour Yuna.
Bonjour Clémence, bonjour Esther.
Bonjour.
Alors comme je le disais, ton activisme passe par ton travail. Première question, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Moi je travaille chez Ethic Advisor. En fait on fait plein de choses, mais qu'on pourrait résumer en gros faciliter et récompenser la consommation responsable. En gros, pour faire simple, si tu prends deux dentifrices, on aime bien les appeler Dentitop et Dentinaze. Dentinaze, il est emballé dans du plastique, la marque paye pas ses impôts en France, il contient un colorant blanc qui est déjà interdit dans l'alimentation. Et de l'autre côté, tu as Dentitop, qui est un dentifrice solide, dans un contenant qui est réutilisable, qui est fabriqué à Marseille, avec des produits locaux, bio, vegan. Du coup, pour te rendre compte que Dentinaze est naze, on a créé une appli de scan, avec des infos sur la santé, la société et la planète. Et pour te permettre de découvrir Dentitop, on a créé notre sélection d'alternatives, qu'on allait dénicher loin de tout ce monde du greenwashing, du social washing, tout ça. Et c'est vraiment ce qui nous tient le plus à cœur, en fait, c'est vraiment montrer toutes les belles initiatives qui existent. On peut scanner que l'alimentaire et la cosmétique, mais vraiment dans la sélection, on a de tout, des vêtements, des meubles, des services, tout ça. Et pour faire rapidement le tour, on a aussi une notion de cashback vertueux qu'on a mis en place, qui est utilisable soit pour racheter dans la sélection, soit pour faire un don à des associations.
Ok, j'ai énormément de questions. Je pense qu'on va commencer par le premier truc qui m'interpelle, c'est tu parles de consommation responsable, de choix responsable. Alors, je pense que Esther, tu m'arrêtes si tu te désolidarises si besoin, mais j'ai l'impression que toi et moi, on fait partie de ces gens qui réfléchissent beaucoup à nos actes de consommation.
A priori, on est sur la même ligne.
Et je me heurte assez régulièrement à la question de mais c'est quoi aujourd'hui un choix éthique ? Il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Rien que ce principe de scanner des produits pour savoir pouvoir avoir une note sur les produits, il y a beaucoup d'applications qui existent. J'ai arrêté de les utiliser parce que finalement je sais pas quelles sont les données qu'elles prennent en compte pour me dire que tel produit a une note plus verte, l'autre rouge, etc. Donc en vrai, j'aimerais qu'on ait un peu une discussion sur c'est quoi consommer responsable, c'est quoi le type de paramètres que dans ton entreprise vous prenez en compte, et on reviendra après sur l'historique de l'entreprise, parce que je dis ton entreprise, mais c'est pas toi qui l'a créé.
C'est ça.
Ok, donc ça on y reviendra. Mais commençons par cette histoire de consommation responsable, ça m'intéresse.
Tant mieux. En gros, pour revenir déjà rapidement sur la notion de note, effectivement, nous c'est un truc qui nous tenait à cœur, le fait d'effectivement mettre un truc qui est vert, un truc qui est rouge, etc. En fait, nous on a la notion de personnalisation. En gros, la note, si tu passes par la case personnalisation sur l'appli, une note ne sera pas la même pour tous les utilisateurs. En gros, si vegan, c'est hyper important pour toi, par contre, tu t'en fous qu'il y ait des sucres ajoutés, ou alors que c'est hyper important pour toi que la boîte paye ses impôts en France, par contre, vraiment, tu t'en fiches qu'il y ait du plastique. En fait, on adapte cette note en fonction des critères que tu as décidé. Donc ça, c'est un des premiers points qui est hyper important pour nous. Et après, pour revenir sur la consommation responsable en général, moi, j'aime bien la résumer en faire en sorte de respecter au maximum toute la chaîne de production, du début à la fin, pour toutes les parties prenantes. Dans un idéal, hein, on est d'accord. Mais en gros, c'est ça qu'on prend en compte. En gros, que ce soit pour l'écosystème dont on tire les ressources, les matières premières, pour les personnes qui les extraient, pour les personnes qui transforment, l'impact énergétique à la création, les personnes qui vont manger, boire, porter, utiliser ce produit, pour les personnes autour, pour l'environnement quand on n'aura plus besoin, etc. Donc vraiment, essayer de réfléchir à la globalité de l'impact d'un produit.
Mais ça existe du coup aujourd'hui on peut faire des achats responsables comme ça? C'est une vraie question que je me pose par rapport au fait que dans un système capitaliste, productiviste comme celui dans lequel on vit aujourd'hui, j'ai la sensation que à partir du moment où tu passes par une chaîne de distribution, déjà, tu perds des points. Donc est-ce que ça existe aujourd'hui des produits responsables comme tu le décris?
Oui, c'est un gros travail qu'on met en place, mais ouais, on les cherche en tout cas. On les trouve. On a tendance un peu, quand on parle de Ticket d'Azur, de temps en temps, à volontairement se mettre une balle dans le pied en disant que, effectivement, parfois, le mieux, en fait, c'est de pas acheter les choses. On met vraiment en avant le fait que si tu finis par acheter un produit sur Ticket d'Azur, en fait, c'est que tu as déjà épuisé le fait que tu es sûr d'en avoir besoin, tu es sûr que tu peux pas l'acheter, enfin, que tu peux pas le choper en friperie. Voilà, et par contre, on se dit que quitte à acheter quelque chose, autant que ce soit via une plateforme qui mette en avant des choses à impact positif.
Ouais, ça faisait partie de mes questions. Du coup, vous n'avez pas du tout de seconde main dans ce que vous recommandez?
Si, on a par exemple une plateforme comme AFB qu'on aime beaucoup, qui propose des produits, des ordinateurs, des téléphones, etc., qui sont reconditionnés. Et ils ont en plus une démarche globale hyper importante d'insertion sociale, etc. C'est pour ça que c'est eux qu'on a choisi de mettre en avant dans notre sélection. Mais oui, on a aussi la notion de seconde main au maximum. On essaye de trouver un moyen, en fait, d'aligner TicketAdvisor et toutes ces plateformes qui existent de seconde main. Sinon, il y a un indice dans la notion de consommation responsable. C'est une consommation dont on prend la responsabilité. Et en gros, pour nous, un truc qui est hyper important aussi, c'est de faire des choix éclairés. Donne un maximum d'infos aux gens. Ça peut d'ailleurs faire un peu peur au début, parce qu'on donne vraiment beaucoup d'infos. La personne qui veut passer des heures à trouver des infos sur un label, il les trouvera sur le site. Et en fait, le but, c'est vraiment de dire, on arrête de faire des choix dans le vide. On fait des choix, décidés, des choix éclairés, vraiment. Et voilà, on sait pourquoi on se dirige vers un produit. Si on décide de se diriger, de continuer d'acheter des choses qui sont un peu moins clean, au moins on sait pourquoi, et c'est un choix délibéré, mais on arrête de ne pas être au courant.
Tu disais à l'instant que vous faites un gros travail pour ne vous éloigner des marques qui font du greenwashing, mais c'est tellement une tendance croissante ces dernières années, ça demande un véritable travail d'enquête. Je pense à Cash Investigation, qui est capable de retourner complètement la com d'un grand groupe, mais qui ont des armées de journalistes qui bossent sur ces sujets. Comment vous faites, en fait, pour réussir à... Comment vous faites pour réussir à avoir l'assurance que, ok, tel produit dans telles conditions, distribué par telle filière, remplit les qualités éthiques que vous lui donnez? Comment vous pouvez réussir à savoir que ce n'est pas juste de la communication? Parce que juste de la communication, parfois, c'est très très bien fait comme travail de communication.
Tout à fait. Alors en fait, il y a jusqu'ici, la plupart des marques qu'on avait dans la sélection, c'était juste un travail de fourmi, qui était réalisé principalement par Eric. Bon, je reviendrai sur son profil, mais c'est un des cofondateurs de TicketAdvisor. Et en fait, lui, simplement, il va s'asseoir avec les gens de cette marque et il va demander tous les documents nécessaires pour prouver les choses qu'ils ont envie de mettre en avant. Et voilà, il y a ce taf-là vraiment de fourmi qui est fait. Et sinon, là, on est en train de faire des partenariats, en fait, avec des entités extérieures de qualification d'impact, parce qu'on a aussi conscience du fait que les gens dans ce genre de milieu, ils sont hyper demandeurs de neutralité. Et si nous, on dit qu'un produit est éthique, ça peut être perçu comme de toute façon, il est sur votre site, donc forcément, vous allez dire qu'il est éthique. Donc, on va passer par des plateformes comme Slow Cosmetic ou Impact, qui a plus un focus financier, une approche plus financière du problème. Mais en gros, on va dire, bah voilà, pour qu'un produit puisse être dans la sélection, il faut qu'il ait au minimum 3 étoiles sur Slow Cosmetics. Et vu qu'eux, ils ont déjà fait en amont ce travail de fourmi, c'est un gage de qualité et de neutralité.
Tu disais aussi que vous donnez beaucoup d'informations sur les produits et que ça peut faire peur. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment ça se présente? Quel type d'informations sont données aux gens? Et pourquoi tu penses que ça peut être un peu rebutoire?
Par exemple, en fait, on a plus de 40 critères, plus de 40 labels, en fait, qui sont soit des labels officiels, donc bio, voilà, ou des labels qui n'ont de nom que de labels, mais qui sont, je ne sais pas, sans plastique, ou payent ses impôts en France, etc. Et du coup, nous, pour nos 3 blocs de base qui sont vraiment la santé, la société et la planète, à chaque fois, il y a tous ces labels qui sont présentés sur le produit. Et on va dire, ce produit, il a tel label et il n'a pas aussi tel label. Parce que c'est important que les gens sachent que, OK, ce produit est partiellement produit en France, mais en fait, il aurait été possible qu'il soit aussi produit totalement en France. Donc, les gens peuvent se dire que c'est cool que tel produit est un label, mais j'aurais aimé qu'il aille encore plus loin. Et du coup, ça fait beaucoup d'informations, avec parfois des mots un peu barbares, qu'on essaye un maximum de vulgariser, mais c'est énormément de temps et d'investissement, donc tout n'est pas encore parfaitement explicite sur le site. Mais oui, par exemple, rien que dans le côté bio, dans les cosmétiques, en fait, on va présenter 4 ou 5 labels différents, parce qu'on sait qu'il y a certaines personnes pour qui bio, c'est pas suffisant en fait comme information. Ils vont vouloir savoir si c'est le EcoCert qui va peut-être aller moins loin que tel autre label, voilà. Donc pour les gens éclairés, déjà éclairés, ça peut être rassurant. Pour les gens qui ne savent pas encore, ça peut être un peu effrayant. Mais on essaye au maximum. On fait des modifs très régulières sur le site et l'appli pour à chaque fois essayer à la fois de synthétiser l'information pour qu'elle soit compréhensible par tout le monde, mais en même temps, ne pas compromettre aussi l'intégrité de toutes ces infos qu'on a sous la main.
Alors, merci beaucoup pour ces explications. Je vais en profiter pour donner une illustration, je pense, avec ma propre expérience. Parce que moi, je suis devenue végétalienne en 2012 en France. Ça faisait 10 ans avant, un peu moins de 10 ans, que je m'intéressais au sujet, parce que je l'avais découvert en 2003-2004. Et en fait, le fait de devenir végétalienne, ça m'avait obligée à lire la composition des produits quand je faisais les courses. Et le temps que je passais à faire des courses, et passait de une dizaine de minutes avant, à savoir je rentre dans le magasin, je prends mes produits de consommation courants et je vais les payer, à 4 fois ce temps minimum. Parce que c'était, je prends les produits de consommation que j'avais l'habitude de prendre, je retourne et je lis l'étiquette. Et la plupart des produits industriels, les étiquettes, déjà, il faut trouver où sont écrits les ingrédients, il faut lire, c'est écrit en petit et c'est très long, et il faut identifier quels sont ceux qui sont d'origine animale, parce qu'encore une fois, c'était pas du tout mis en avant. Ce qui fait que pendant un temps, je me suis dit, mais quel poids je suis en train de mettre sur les épaules, de prendre autant de temps pour faire un choix qui avant relevait presque de l'automatisme. Et ben oui, en réalité, on ne peut pas changer ses habitudes de consommation comme ça, en claquant des doigts du jour au lendemain. Je pense que ça demande du temps, je pense que ça demande un certain investissement, et tant mieux si des applications comme celle que propose Ethic Advisor ou d'autres applications qui fonctionnent sur des principes similaires permettent de simplifier certains travaux de recherche et d'information. Il n'empêche que si tu veux changer tes habitudes, le travail d'information, de prise de conscience, personne ne peut le faire à ta place. De toute façon, il reste quelque chose à faire à ta charge. Tant mieux si tu peux t'aider d'autres outils, d'autres personnes, effectivement des réseaux sociaux, de ce genre de choses pour aller plus vite. Mais je pense qu'il y a un investissement personnel incompressible dans cette démarche. Qu'en pensez-vous?
Waouh. Oui. Alors déjà, je partage totalement ton... J'ai moi aussi fait ce changement d'alimentation qui a fait que j'ai dû retourner pas mal de produits pour découvrir que, oh mon Dieu, il est possible de mettre de la poudre de lait dans absolument tous les produits au monde. Oui, c'est un gros travail, on en a totalement conscience. On sait aussi que souvent c'est un luxe de temps et d'investissement. On n'ira jamais blâmer les gens qui qui ne peuvent pas, qui n'ont pas le temps ou qui ne pensent pas encore en tout cas avoir le temps. Parce qu'on sait qu'il y a parfois des périodes où en fait on est en mode survie et où c'est hyper compliqué de rentrer dans ce monde-là. En tout cas, quand les automatismes sont là, ça va assez, c'est assez simple. En fait, j'imagine que maintenant tu mets plus une heure pour faire tes courses, mais c'est un temps à prendre au début, c'est sûr. C'est pour ça qu'on fait un gros taf de comment dire, de permettre aux gens de mettre un pied dedans. Notamment grâce aux articles de blog qui sont une version un peu plus agréable à découvrir que juste lire des détails techniques sur l'application. Oui, c'est du temps et oui, c'est un choix à faire. Je pense qu'une fois qu'on a commencé à mettre le pied dedans, c'est hyper compliqué d'essayer de fermer les yeux. Mais je comprends que ce soit une approche qui soit validée par certains, parce qu'en fait, c'est le cas pour plein de gens. Les gens savent, mais les gens décident de ne pas modifier leur consommation. Je comprends que ce soit effrayant, qu'on ait l'impression que ce soit un immense chemin. Déjà, on se dit que les petits pas sont hyper importants. C'est aussi une des grosses approches des TicketVisor, c'est qu'en fait, les petits pas sont hyper importants. Et... Voilà, on va pas jeter la pierre sur le fait que tu sois pas parfait, que en fait t'es pas respecté 100% de la chaîne. Il se trouve que t'as trouvé un produit parfait, il est génial, il est 100% recyclé, mais en fait il y a une des usines qui se trouve en Italie pour des raisons X ou Y. On va pas aller blâmer ces gens-là juste parce que en fait déjà toutes les alternatives parfaites n'existent pas, et parce que tout ça c'est une évolution, tout ça c'est des changements qui sont importants à dans une vie, dans un quotidien. Donc forcément, il faut du temps, mais on y croit.
Mais c'est ce que je voulais dire. Enfin, déjà, par rapport au temps, je pense que ça se diminue avec le temps qui passe. On apprend à reconnaître et on connaît en fait les produits qu'on veut consommer et dont on sait qu'ils ne contiennent pas ce qu'on ne veut pas qu'ils contiennent. Enfin, en tout cas, ça s'est passé comme ça de mon côté. Et je voulais juste dire, sur le site d'EthicAdvisor, il y a justement des catégories où tu peux cocher « je veux que ce soit vegan »,« je veux que ce soit zéro plastique », »,« je veux que ce soit upcycling ». Donc ça, en fait, c'est un truc qui peut être aussi économisé... avec certaines tactiques. Alors, je pense que faire toutes ces courses d'alimentation sur EthicAdvisor, c'est cool. En même temps, ça doit demander un peu d'organisation quand même. Mais typiquement, pour un produit de beauté, enfin moi, j'en achète tellement jamais. Genre, si je cherche juste un dentifrice, c'est assez facile d'aller sur le site et de cocher « Ok, je veux un dentifrice vegan et sans plastique » pour les personnes qui voudraient ce genre de choses. Et après, de toute façon, je trouve qu'il y a aussi un... Voilà, une course au produit parfait, alors que même, par exemple, en seconde main, enfin, moi, ça m'est arrivé de me poser des questions de type « Est-ce qu'il vaut mieux que j'achète ce jean dont j'ai besoin parce que mes jeans sont troués en friperie qui est vieux et qui va probablement... alors, peut-être pas un jean, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais bref, un vêtement en friperie qui est vieux, qui contient des fibres synthétiques et qui va en relâcher à chaque lavage, etc., qui est polluant d'une certaine manière, ou que j'en achète un dans une meilleure matière qui sera moins vieux et qui n'aura pas ces choses-là chez une marque plus éthique qui recycle intégralement, etc. Enfin, je pense que de toute façon, il y a toujours des dilemmes comme ça sur lesquels on n'a pas pour le coup, on n'a pas suffisamment d'informations pour choisir. Et enfin, voilà, je ne sais pas si ça, c'est une chose auquel vous réfléchissez aussi chez EthicAdvisor, mais en tout cas, enfin, je pense que déjà, votre démarche, elle facilite ces choix-là.
Ouais, alors pour revenir rapidement sur, effectivement, faire toutes ces courses alimentaires sur EthicAdvisor, très gros bordel, je ne le conseille pas. Par contre, on met en avant... Donc pour s'acheter des petites choses de temps en temps, effectivement c'est pratique. Par contre, pour se faire des courses du quotidien, on met en avant notamment Aurore Market par exemple, qui est une plateforme qui propose des produits bio plus accessibles en direct producteur, qui reverse pour chaque abonnement un abonnement à une famille qui n'a pas les moyens de se le payer. Donc voilà, c'est vraiment dans la globalité, ça fait partie des services dont je parlais notamment. En fait, on essaye vraiment d'apporter un maximum de solutions dans tous les cas. Et pour revenir effectivement sur le produit parfait, c'est vrai que dans plein de cas, ce produit parfait n'existe pas. Et en fait, c'est là où on laisse les gens un peu libres de leur libre arbitre, de leur choix. On leur donne juste toutes les infos. On vous dit, voilà, effectivement, si vous achetez tel produit de telle manière, ça aura tel impact positif et négatif. Tel produit, tel impact. Vous faites le choix comme vous le sentez. Vous mettez la barre où vous voulez, par exemple. Je sais que, y a plein de gens qui ne sont pas du tout véganes, mais qui n'achètent que du Made in France. Je sais que moi, ma barre, je le mets au véganisme et que parfois, je transige sur le Made in France. Il y a des gens qui ne transigeront jamais sur Made in France et qui n'ont aucun problème à acheter des choses avec du plastique dedans parce que c'est local, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, je pense, quelque chose de très personnel. Une fois qu'on a engrangé un maximum d'infos, après, c'est un choix à faire. Et effectivement, des fois, c'est un peu à pile ou face, mais on essaye de faire en sorte que ces choix ils soient les plus éclairés possibles et donner un maximum d'infos.
Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur Ethic Advisor, l'entreprise, puisque, comme je le disais, donc c'est pas toi qui l'as fondée, toi tu as rejoint le projet. Est-ce que tu peux du coup nous parler un petit peu de l'historique de cette entreprise, de qui l'a fondée et comment tu as rejoint l'aventure?
Yes, ça a été créé en 2018 par Éric Taillard et Adrien Chauve sur une idée originale d'Éric, mais en fait ils se connaissaient pas à la base. Ils se sont retrouvés sur ce sujet-là, sur ce projet-là, avec l'envie de quelque chose qui ait du sens. C'était pas forcément le cas dans leur vie d'avant. Donc il y en a un qui avait un profil plutôt business, l'autre plutôt dev technique pure. Et en fait, moi, je les ai rejoints quelques jours avant la sortie officielle de la première version du site en septembre 2018. En gros, une fois que le produit existait, il fallait faire en sorte que les gens le sachent. Et c'est là que je suis arrivée. Moi, j'ai une casquette plutôt com, mais au sens très, 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 très large du terme. Parce que, comme vous vous en doutez, dans une petite boîte avec trois personnes, forcément, on ne peut pas faire un seul métier. Mais voilà, que ça aille de la rédaction d'articles à la gestion des réseaux sociaux, en passant par l'UX, du design, etc., de la création de visuels, tout ça. Voilà, moi je suis arrivée en alternance, en fait, au début. Aujourd'hui, je suis salariée, mais je suis arrivée en alternance pendant mes études parce que je voulais quelque chose qui ait du sens, comme eux. J'ai toujours voulu ça. J'étais à mon compte avant. J'ai toujours travaillé en même temps que mes études, et du coup, l'année précédente, j'étais à mon compte. Toujours pareil dans des boîtes en rapport avec le bio, le zéro déchet. Enfin, j'avais vraiment des marques qui étaient déjà engagées. Et j'ai eu le luxe, j'ai toujours eu le luxe d'ailleurs, d'avoir le temps et le choix de choisir comment et avec qui je voulais travailler. Et du coup, quand j'ai décidé de faire une alternance, j'ai eu. Le temps de me dire, bon, pour le moment, je postule que à des boîtes qui correspondent à mes valeurs, parce qu'à la base, c'était vraiment pour ça que je voulais faire ce métier. Et j'ai eu la chance de pouvoir finir par choisir Ethic Advisor, et voilà. Et depuis, c'est un peu, même si ce n'est pas moi, je ne suis pas une des cofondatrices, je suis un peu partie du cœur, et c'est un peu mon bébé, un peu comme pour les autres.
Je voudrais qu'on revienne un petit peu au choix de consommation responsable, puisque c'est ça que permet le site et l'application. Je sais que vous avez en ce moment une campagne de crowdfunding. C'est sur KissKissBangBang. OK. Alors, pourquoi vous passez par une campagne de financement participatif? Pour faire quoi?
Alors aujourd'hui, en fait, on a vraiment toujours eu envie d'être un agrégateur de solutions. Donc on a toujours envie d'aller plus loin. Et en fait, c'est une envie qu'on a depuis un moment de lancer ce qu'on appelle aujourd'hui le projet Impact. C'est ça qui est en cours sur KissKissBankBank. En fait, le principe, c'est permettre aux gens de retrouver les produits qui sont actuellement dans notre sélection dans les commerces de proximité. Parce que on sait que c'est plus pratique, parce que ça pollue moins, parce qu'il y a moins de livraison, parce que ça permet de faire vivre les petits commerces aussi, ça permet d'avoir un lien social plus présent. Donc, on veut recenser les points de vente de nos produits actuels, mais aussi découvrir des petites boutiques chouettes, genre des magasins en vrac, des points de vente comme La Ruche qui dit oui, etc. Et effectivement, de toute façon, par la même occasion, faire développer notre notion de cashback, qu'elle soit cumulable et utilisable directement en magasin. Parce qu'actuellement, tout est sur Internet. Donc, on a vraiment envie de remettre le lien social au cœur de nos valeurs, parce que pour le moment, bah, c'était pas le cas. Et c'est un truc qui est assez compliqué à faire uniquement via Internet. Donc on s'est dit, bah, on va arrêter d'être sur Internet, du coup, et on va être aussi dans la vraie vie. Et pourquoi passer par un crowdfunding? C'est parce qu'en fait, c'est un peu l'occasion pour nous, déjà, d'être sûr que ça plaise aux gens. C'est-à-dire que l'engouement qui est derrière le crowdfunding, en fait, ça nous rassure aussi sur cette envie d'aller dans ce sens-là. Et en fait, l'argent du crowdfunding, ce sera à la fois pour nous permettre de respirer un peu plus dans les mois qui viennent, et aussi, du coup, permettre de développer cette approche de recensement et de qualification de tous ces points de vente et de développement technique derrière, etc.
Tu as dit plusieurs mots que je n'ai pas compris. Je vais commencer par cashback.
Yes.
Qu'est-ce que c'est? Explique pourquoi.
Le cashback, c'est les gens passent... Si les gens passent par notre plateforme pour acheter un des produits de la sélection, sur certains des produits, on a ce qu'on appelle une notion d'affiliation, où en gros, on récupère un petit pourcentage de l'achat de ces produits. Ça ne coûte pas plus cher aux gens, c'est juste qu'on récupère un petit pourcentage. Et du coup, ce pourcentage-là, on s'en sépare d'une partie pour la redonner à la personne qui vient d'acheter, pour qu'ensuite, elle cumule cet argent sur son compte et qu'elle puisse l'utiliser soit pour racheter un produit parmi la sélection, soit pour faire un don à une association. Donc c'est vraiment une recherche de cercle vertueux, voilà, et de toujours un peu réinvestir en fait son argent dans quelque chose à impact positif.
Mais du coup, moi j'ai une vraie question, comment est-ce que vous gagnez de l'argent au final?
Alors, du coup, il y a cette notion d'affiliation principalement. En fait, voilà, c'est quand les gens passent, quand les gens passent par nous, on récupère un petit pourcentage. Et il y a aussi la notion de qualification des entreprises. En fait, on demande un petit montant pour permettre de qualifier l'entreprise, parce que c'est beaucoup de temps pour nous. Comme je vous avais dit, en fait, vraiment, il faut qu'on s'installe avec cette personne-là et qu'on discute longtemps, qu'on demande plein de preuves. Et voilà, il y a cette... en fait, il y a une... pour les plus LinkedIn d'entre nous, ça va être une approche B2C, une approche B2B.
Tu as parlé d'impact positif. J'aimerais qu'on parle un peu de ça, parce que dans le capitalisme en général, on parle d'externalités négatives, donc dommages collatéraux, d'effets indésirables. Impact positif, qu'est-ce que c'est? Et comment tu mesures un impact positif sur un achat?
Alors, je sais que souvent, ouais, on a la notion d'impact négatif et pas d'impact positif. Le fait de parler d'impact positif, c'était vraiment un choix au cœur de la démarche, surtout d'Eric, dès le début. En fait, le but, c'est de mettre en avant tout ce qui est positif dans un produit. Mettre en avant les bons sans forcément taper sur les mauvais. Il y en a d'autres, hein, qui font ça très bien. C'est important que ça existe, c'est juste pas notre approche. Dans des exemples très concrets d'impact positif, ça va être au niveau social, par exemple. Le fait qu'une entreprise paye ses impôts en France, ça a un impact tangible sur la société. Que des collants soient faits en 100% en nylon recyclé, à partir de collants qui auraient dû aller à la poubelle par une entreprise qui veut... comment dire, qu'une entreprise décide d'implanter ce fameux recyclage des collants en France alors que ça n'existe pas encore. Ça, c'est un impact concret et tangible, positif. Alors effectivement, il y a certaines choses qui vont pouvoir être perçues comme une absence d'impact négatif plus qu'un impact positif. Mais c'est vraiment plus une approche en fait, de la chose qui est pour nous la notion d'impact positif.
Est-ce qu'on peut prendre un exemple de produit ou d'entreprise auquel les gens ne pensent pas forcément quand ils réfléchissent à l'éthique des produits? Je prends un contre-exemple du coup. Aujourd'hui, quand on parle d'alimentation, tout le monde voit ce que c'est qu'un choix d'alimentation responsable. Après, selon toute une diversité de critères, effectivement, local, de saison, produit en France, végétarien, vegan, enfin, il y a toute une série de critères. Je pense que chacun peut se représenter ce que c'est que de faire un choix plus ou moins éthique, plus ou moins responsable par rapport à sa propre échelle de valeur et celle de la société dans laquelle on est. Est-ce qu'il y a d'autres produits auxquels tu penses, auxquels, enfin, que vous référencez sur EthicAdvisor et auxquels les gens ne pensent pas forcément, ne se disent pas, tiens, il y a une notion aussi d'éthique ou de choix responsable sur ce type de produit?
En fait, nous, vraiment, on propose des choses, effectivement, on a l'alimentation qui est au cœur, mais je te dis, on va vraiment vers la notion de soins et beauté, de mode, de service, de maison, petite enfance, enfin, on a vraiment de loisirs aussi avec la high-tech. Je vous parlais notamment d'AFB. Et en fait, j'aime vraiment bien ce concept-là parce que cette notion de seconde main dans les produits high-tech, c'est une démarche que les gens n'ont pas forcément encore. Et en fait, il y a des concurrents hein, d'AFB qui sont hyper connus, genre Back Market. Ce qu'on aime vraiment beaucoup avec AFB, c'est qu'il y a non seulement un impact concret, hyper tangible, du côté bah ok c'est reconditionné, mais en fait derrière il y a aussi toute cette recherche d'impact social, d'insertion qui est hyper pertinente et qui montre qu'en fait ce genre d'initiative c'est plus une recherche globale d'impact que juste la création d'un nouveau produit.
Ok, ça va plus loin que juste La démarche de réfléchir à une consommation responsable, ça va plus loin que juste le simple produit. C'est aussi dans quel contexte, environnement il est produit et la dimension sociale qui s'ajoute à la production. C'est une des valeurs que vous mettez en avant, c'est la dimension sociale, c'est ça?
Oui, tout à fait. Ben, en fait, vraiment, nos trois piliers, c'est la santé, la société et la planète. Donc oui, au milieu, on a la société et cette dimension sociale qui est hyper importante pour nous. C'est d'ailleurs pour ça hein, que la notion de lien social est hyper importante pour la campagne qu'on est en train de mener, parce qu'on a vraiment envie, on a réussi à tenir une demi-heure sans en parler, mais en ce moment, on sait qu'on est en pleine épidémie et que la plupart des commerces
de proximité... On est en pleine épidémie, ça m'avait échappé.
on est en pleine épidémie et les commerces de proximité ont souvent dû fermer, ils vont avoir besoin d'un gros coup de boost au moment où ça reprendra, où toute leur activité pourra reprendre. Et du coup, vraiment, cette notion de lien social et de mettre en avant des vrais projets de cœur, en fait, souvent, c'est hyper important pour nous. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que la société est c'est un de nos trois piliers. C'est parce que ça nous semblerait un peu contre-productif d'essayer d'aider la planète sans aussi aider les gens qui sont dessus. On met par exemple en avant le fait que les entreprises favorisent, comme je disais, l'insertion sociale, qu'elles payent leurs impôts en France. Et je vais raconter un petit peu ma vie, mais je suis dans un podcast, du coup je me permets.
Oui.
L'année dernière, pour la Saint-Valentin, j'ai écrit un article, donc toujours pour EthicAdvisor, qui parlait des choses auxquelles on pouvait dire « je t'aime ». Mis à part sans chair et tendre. Et une de ces choses-là, c'était le service public. Du coup, on peut se retrouver sur le côté payer ses impôts en France, favoriser les entreprises qui payent les impôts en France, par exemple, financer les hôpitaux, tout ça, tout ça. Donc, c'est vraiment une démarche globale d'impact social au sens très grande échelle et aussi impact social au sens vraiment... face à face avec une vraie personne et un vrai échange plutôt que juste, entre guillemets, un achat via Internet.
Alors effectivement, je suis très contente qu'on ait pu faire cette interview même à distance parce que c'est aussi l'actualité qui a précipité notre choix, Esther et moi, de te contacter pour te proposer cette émission en ce moment. Il y a énormément de gens qui s'interrogent sur le monde d'après. Ça y est, on a déjà commencé à réfléchir au monde d'après. Oui, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent depuis assez longtemps au monde auquel il faudrait qu'on arrive. Mais maintenant, on a un avant, un après. Ok, super. Pour moi, c'est une bonne étape. Je suis contente. On fait ça. Et du coup, dans ce monde d'après, évidemment, quel modèle de consommation? Et je pense que pour beaucoup de gens, c'est un vrai labyrinthe, tu vois. C'est un peu pour ça que j'avais commencé cette discussion sur « mais ça veut dire quoi, consommer responsable ?» Parce que, on est soumis à tellement d'injonctions contradictoires dans le domaine de la consommation, notamment parce que ben, la communication autour de la consommation, ça s'appelle la publicité, et c'est un modèle de communication assez agressif en réalité, c'est-à-dire que vraiment dirigé vers provoquer de l'action et de l'action de consommation. Je vais prendre juste un exemple. Au début du confinement, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux une incitation à soutenez vos libraires, soutenez la culture, achetez des livres. Et alors aussitôt, le retour de bâton qui était « Ah non, 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 n'achetez rien, n'achetez pas de commandes, ne vous faites pas livrer, il y a des travailleurs précaires qui vont sortir et vous livrer des livres, ça n'est pas indispensable, etc. » Et ça, c'est une très bonne illustration du paradoxe dans lequel on est en permanence. La crise du coronavirus met un coup de projecteur dessus, à savoir « Ok, je veux aider des libraires indépendants, je vais commander des livres. Attention, en faisant ça, je mets des travailleurs précaires en danger, enfin littéralement en danger de contracter une maladie dont ils risquent d'être très malades, voire carrément de mourir. » Et en réalité, ce paradoxe, cette situation assez impossible, on est dedans tous les jours. Mais on ne s'en rend pas compte. Mais en réalité, dans ma vie de tous les jours, quand je commande en ligne un t-shirt fabriqué dans une marque de fast fashion qui a été cousu au Bangladesh par des travailleuses extrêmement précaires également, je ne me rends pas compte que je fais exactement le même choix de consommation qui était décrié il y a 2 semaines en France. En fait, je voudrais qu'on réussisse à inspirer les gens qui nous écoutent à réfléchir à leur choix de consommation, à réfléchir à comment s'informer pour faire de meilleurs choix de consommation, à réfléchir à ça veut dire quoi, un meilleur choix de consommation, parce que c'est loin d'être évident, on vient de le dire, et absolument sortir de ce contexte d'injonction paradoxale, sortir aussi d'une espèce de pression à la morale, parce que ça c'est quelque chose que je supporte assez mal, hein. Je le disais plus tôt, mais moi donc ça fait assez longtemps que je suis végétalienne, et que j'ai un mode de vie qui tend vers le véganisme, hein, mais en réalité, c'est une lutte de tous les instants. Et cette année, je suis tombée dans la précarité, mon véganisme en a pris un coup, forcément. Parce que quand je regarde, avant je pouvais effectivement substituer des produits de consommation courante par leur version végane, qui coûtait 4 fois plus cher, mais je pouvais me le permettre. Franchement, quand tu commences à compter le moindre euro... Enfin, je fais plus ça en réalité. Donc, et je vais prendre un exemple concret. Bon, je mange toujours pas de viande parce que de toute façon, ça c'est cher. Mais par exemple, le pesto, le pesto vegan, acheté en magasin bio, machin, etc. Entre 4,50€ et 6,50€ le pot. Le pesto, je vais citer Barilla parce que je les aime beaucoup. Ils ont fait une version vegan. Mais c'est Barilla, c'est les seuls à avoir fait une version vegan dans leur gamme généraliste là. Leur pesto à eux, il est à moins de 3 euros. Ben, franchement, c'est pas une question d'éthique. J'ai pas changé d'éthique entre-temps. Par contre, j'ai changé de moyens. Et je pense que dans les mois à venir, les gens vont être... Enfin, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans ce même paradoxe, à savoir avoir pris conscience que tu veux contribuer différemment au monde autour de toi. C'est sûr, c'est super. Mais on va être combien à souffrir énormément de cette crise qui est dans ses débuts. Enfin, après la crise sanitaire, il y aura la crise économique, on le sait. Donc, on va pas commencer à faire des émissions pour dire aux gens ben, « Achetez donc du Made in France qui va coûter... du textile Made in France qui va coûter 10 fois plus cher que la fast fashion. Achetez donc du vegan qui coûte 4 fois plus cher que la grande consommation. Achetez du bio local de saison qui coûte 2 ou 3 fois plus cher que les produits en supermarché qui ont fait 3 fois le tour de la planète. Moi, je veux bien endosser le beau rôle de la moralisatrice en chef, mais je ne contribue pas à changer quoi que ce soit quand je fais ça. Je pense qu'au contraire, ça amène beaucoup de gens à juste s'emmurer dans un espèce de déni de bah, « c'est pas à moi de changer, que font les pouvoirs publics ? Moi, j'ai pas les moyens de changer. » Et franchement, ils ont raison quand ils disent ça. Maintenant, je pense qu'il y a une voie médiane à trouver entre attendre que les pouvoirs publics changent la donne pour que les consommateurs n'aient pas besoin de le faire à leur échelle, et se ruiner ou être dans une espèce de situation impossible, de choix impossible entre... c'est même pas un choix, en fait. Tu peux pas, au bout d'un moment, t'endetter pour consommer responsable. J'aimerais bien votre avis à toutes les deux là-dessus, sur ce contexte du monde d'après, sur comment... nous sortir de la situation impossible dans laquelle ben, on est actuellement. Aujourd'hui, c'est le contexte de crise qui nous amène à prendre conscience que, ah ben oui, en commandant un livre sur Internet pour soutenir mon libraire local, je mets en danger un travailleur précaire. En réalité, c'est exactement la même configuration dans laquelle on est placé pour tous nos choix de consommation courante. C'est, ah ben je veux soutenir telle filière de production parce que c'est des emplois, c'est de l'économie, etc. Mais en fait, cette économie, elle a tellement d'externalités négatives qui fait que, est-ce que je suis vraiment en train de contribuer à quelque chose que j'ai envie de soutenir fondamentalement ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et je sais pas comment, enfin, je vous interroge là-dessus pour qu'on en discute, de comment est-ce qu'on sort de ce cercle vicieux.
Ça va être un gros travail, je pense. C'est un travail qu'on essayait de mener déjà avant, qui sera encore effectivement encore plus pertinent à mener dans les jours, semaines, mois, années qui viennent. Comme tu disais, effectivement, je pense qu'il y aura un avant et un après. Certains s'en lavent déjà les mains. Je pense qu'on peut attendre un peu, mais se laver les mains, très bonne blague. Tu parlais de l'impact économique de la chose. Je suis totalement d'accord avec le fait qu'effectivement, il y a certains aspects, certaines choses qui, pour certains ménages, c'était déjà pas le cas avant et ce sera encore moins le cas après, qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir une crème de jour à 20 euros, qui sera déjà moins cher que les trucs de grandes marques qu'on trouve en grande surface, mais qui seront quand même plus chers que les choses qu'on peut trouver à moindre prix à côté. Donc c'est pour ça aussi qu'on essaye de faire un taf de donner des infos sur des produits qui sont aussi plus, on va dire, de la vie quotidienne. Oui, l'impact économique dans certains foyers sera forcément important. C'est pour ça qu'on a envie de mettre en avant des alternatives qui soient trouvables potentiellement en grande surface aussi ou près de chez soi, parce que forcément on n'a pas tous le budget pour s'offrir certains de ces produits. Ils feront pas forcément partie de la sélection, mais on vous donnera des infos qui vous permettront de dire que si vous avez déterminé que vous vouliez arrêter, je sais pas, tout ce qui n'était pas made in France, que le reste est un peu moins important, dans ce cas-là, on vous dit quand même ce qui existe. Ce ne sera pas forcément quelque chose d'incroyable sous tous les angles, mais ça aura le mérite d'exister. Et ça permettra aussi d'avoir cet impact-là qui sera en fait le plus positif possible dans les mesures et dans les capacités qui sont les vôtres.
Pour ma part, j'ai pas l'impression qu'on va avoir vraiment un changement net entre le avant et le après. Je pense que c'est joli hein, de penser tout ça et tout, et j'ai vraiment envie d'y croire, mais j'ai quand même l'impression que c'est aussi un truc qui est très présent dans une certaine bulle filtrée, mais pas forcément pour tout le monde. Dans tous les milieux sociaux, dans toutes les sphères politiques. Je pense qu'il y en a qui espèrent faire redémarrer la machine bien comme avant ensuite. Et en tout cas, là où je pense qu'il pourrait y avoir potentiellement du changement, qui sera... Enfin, je vois difficilement comment il pourrait être brutal et du jour au lendemain, hein, mais je pense qu'il peut y avoir une démarche de retour vers justement les métiers fondamentaux. Enfin, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que l'un des gros trucs que cette crise a visibilisé pour moi, c'est vraiment tous ces bullshit jobs où en fait, il n'y a rien à foutre. Ou en tout cas, c'est pas foncièrement essentiel à la survie de la société. Et contrairement à plein d'autres métiers qu'on ne considérait pas avant, qu'on sous-estimait avant et qui apparaissent maintenant très clairement comme étant indispensables, etc. Donc je pense que l'un des aspects qui peut changer, c'est un retour vers des métiers plus utiles. Et pour moi, ça va avec l'idée d'une consommation ou d'une production à impact potentiellement moins négatif. Parce que si on revient, alors je vais prendre un exemple très cliché, mais pour vous donner l'idée globale, si on revient à, par exemple, des personnes qui vont vouloir devenir maraîchers, pour produire vraiment de la nourriture dans le respect au maximum de l'environnement, c'est... Enfin, on va être dans une consommation moins intensive, mais on va quand même avoir besoin potentiellement de plus de gens pour produire du coup cette nourriture-là. Et ça peut être ces gens-là qui se sont rendus compte qu'ils n'ont plus envie d'être dans un bureau à enchaîner des réunions toute la journée pour décider de quelle couleur doit être le fond de telle affiche.
Excellent exemple.
je prends cet exemple parce que j'en ai dans mon entourage qui ont ces réflexions-là en ce moment, tu vois, et voilà, mais ça peut être de plein d'autres manières différentes. Mais voilà, enfin, j'ai du mal à avoir un changement radical, mais je pense que ça peut être sur des petites choses comme ça qui, au fur et à mesure, peuvent entraîner...
Effectivement, je pense pas non plus qu'on va avoir un changement radical du jour au lendemain, mais comme d'habitude, je pense que c'est nous qui devons aller au-devant de ces changements, de les provoquer. En ce qui me concerne, c'est vrai que je faisais pas trop attention à l'aspect « est-ce que l'entreprise paye ses impôts en France ?» Et je suis traumatisée par le manque de financement de l'hôpital public. Donc je vais faire deux changements drastiques dans ma vie. C'est que je vais soutenir, mais vraiment soutenir les entreprises, les artistes qui payent leurs impôts en France et pas ceux qui font de l'évasion fiscale pour ensuite venir faire des grands appels aux dons pour financer l'hôpital public. Alors là, vraiment, le niveau de foutage de gueule est trop
élevé
pour moi.
Personne n'est visé.
Alors vraiment, okay. Là, je vais pas citer de nom parce que je... Mais vous savez, enfin, googlez. Mais vraiment, il y en a qui ont la mémoire trop courte, donc ça m'agace. Et le mot est faible. Donc d'une part, je vais soutenir les gens qui contribuent à l'effort national, hein, comme toutes celles et ceux qui payent des impôts, il n'y a pas de raison. Et en politique, je vais être beaucoup, beaucoup plus vigilante à toute la période de discussion autour du budget. Comme ça a l'air d'être des discussions techniques et c'est assez rebutant comme ça de premier abord, alors que c'est effectivement des discussions qui sont essentielles parce que c'est à ce moment-là qu'on prend les décisions de où va l'argent. Et j'avoue que j'ai beaucoup fait confiance à nos décideurs politiques des gouvernements et couleurs politiques successives, parce que c'est assez constant finalement, les choix budgétaires, ils sont souvent faits à la marge. Hein, on débloque un budget pour créer un ministère des droits des femmes, ou bien on l'enlève pour le mettre ailleurs. Ça, c'est une décision qui se voit, mais en réalité, c'est quelques centaines de millions d'euros, c'est pas beaucoup dans le budget de l'État. Mais je m'étais jamais imaginé que depuis toutes ces années, il y avait un processus comme ça de sous-financement de l'hôpital public. Et quand je vois aujourd'hui, comme tout le monde, hein, quand je découvre nos personnels soignants, j'étais loin d'imaginer que les infirmières étaient aussi mal payées, que le matériel était géré de telle façon que, ben, au bout de 3 jours, ça y est, ils sont en rupture de stock. Enfin, en plus, on n'est pas sur des dizaines de milliers de personnes qui arrivent du jour au lendemain dans les hôpitaux. C'est évidemment un afflux qui est plus important que d'habitude, mais c'est des centaines par jour, c'est des milliers à certains endroits où il y a des fortes concentrations de population. Enfin bref, c'est pas comme s'il y avait eu un tremblement de terre et puis d'un coup, 10 000 personnes arrivent aux urgences. Donc ça m'a traumatisée. Donc je vais être hyper attentive, oh là là. L'année prochaine, le live tweet de discussion budgétaire. Mais alors là, je vais faire attention, où va l'argent, parce que franchement, où est passé l'argent des hôpitaux, quoi?
C'est vrai que regarder les budgets, et en fait, juste à regarder où on décide de débloquer des fonds et d'en couper, ça devrait limite être le premier truc qu'on regarde, en fait, quand on fait un choix politique, puisque tout, malheureusement, tout réside un peu là-dedans, dans les fonds qu'on se permet d'allouer aux différentes priorités. Et effectivement, je pense qu'il y a un truc qui tourne effectivement beaucoup sur la manière dont on traite notamment le personnel soignant et toutes les personnes qui sont en train de bosser aujourd'hui pour faire en sorte que les trucs essentiels continuent de tourner. On se rend compte petit un qu'ils sont extrêmement mal payés, mais qu'en plus, on est plutôt de très mauvais élèves de ce côté-là en Europe, en France. On a tendance à oublier ça. Donc ouais, peut-être que ça permettra aux gens de se rendre compte que la notion de budget est hyper importante. C'est une prise de conscience que j'ai moi aussi en ce moment. Hein. J'avoue que je ne m'étais jamais plus que ça penchée sur le sujet. Et ça peut aussi être l'occasion de montrer un truc qui m'a vachement marqué et qui ressort un peu tous les ans, tous les deux ans. C'est la différence entre les millions et les milliards. En fait, il y a nouvelle vidéo qui a tourné récemment avec la notion de... Enfin, le mec présentait les centaines de milliers, les millions et les milliards avec des grains de riz. Et t'as aussi ce genre de parallèle qui est fait avec les secondes, les minutes et les années carrément, entre les millions et les milliards. Pour nous, petites gens, ça fait un peu... Enfin, on voit ça comme juste des gros chiffres. Et en fait, quand tu t'entends plusieurs millions qui sont débloqués, ça te semble énorme. Et en fait, quand tu t'entends qu'il y a des milliards d'évasion fiscale, tu dis oui, bon, bah, c'est aussi un gros chiffre. Alors qu'en fait, ce sont des chiffres qui n'ont rien à voir entre eux et qui sont vachement plus vraiment plus importants en termes de milliards. Et je pense que plein de gens ne se rendent vraiment pas compte.
Effectivement. Et je rebondis juste pour deuxième point sur lequel je vais être attentive. Donc là, j'ai parlé de choix de consommation, de vigilance politique. Et mon troisième point, ça va être le retour au local. Là, je pense que c'est quelque chose qu'on va, j'espère, voir venir dans la société. C'est cette prise de conscience sur le jour où il y a un vrai problème et qu'on a peur des pénuries. Qui sont les gens autour de nous qui font pousser des légumes, qui font du pain, qui distribuent de la viande, des produits laitiers, des œufs, etc. Et aujourd'hui, les gens ont commencé, là où ils pouvaient, à se réapprovisionner comme ça par des circuits courts, comme on dit. Et j'espère que ces habitudes-là, elles vont perdurer. En tout cas, moi, j'ai l'intention de vraiment me rattacher à ces circuits-là. Et bien, effectivement, ça veut dire faire ses courses en plusieurs fois, parce que tu ne peux pas aller dans un endroit et avoir des fruits et légumes... viande, produits laitiers, pain, etc. C'est 3-4 producteurs différents. Ben ouais, mais faut savoir ce qu'on veut, je pense, en termes de modèle de société. Je pense qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ce qu'on voulait, c'était gagner du temps. Et peut-être qu'aujourd'hui, gagner du temps en allant dans le même endroit pour faire toutes ces courses, c'est plus la priorité. Peut-être que la priorité, c'est de contribuer à d'autres circuits de distribution.
Ouais, à partir du moment où en fait, ce temps que tu prends... effectivement sur ton quotidien, c'est un temps qui a du sens et en fait tu réfléchis je crois qu'on avait l'intention de parler un peu de la notion d'acte politique après, mais je pense que c'est vraiment prendre ce temps là aussi, c'est vraiment se dire je vais pas juste faire mes courses et acheter des choses à mettre dans ma bouche afin de ne plus avoir faim, c'est faire un choix délibéré et prendre le temps de se dire bah en fait tout à l'heure je vais chez un maraîcher et en fait ça va être mon vote du jour, en fait c'est décider que ce temps-là je l'alloue à avoir un impact positif sur l'environnement s'il est bio et que j'ai juste fait quelques minutes de transport pour aller la chercher, sur ma santé parce que ben en fait je vais cuisiner moi-même, je vais pas avoir des produits ultra transformés, etc. Et sur la société, parce que bah, en fait, je vais avoir donné plus d'argent. Ça ne va pas forcément avoir coûté plus cher. Par contre, la personne qui recevra l'argent aura reçu plus d'argent que si c'était passé par 3-4 intermédiaires pour arriver dans une grande surface, quoi. Donc, effectivement, c'est du temps qu'on prend, mais je ne pense pas que ce soit du temps... On ne perd plus du temps à faire ses courses, en fait.
Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui pensent et qui disent « À quoi bon changer mes habitudes de consommation ? Moi, je suis une personne, je suis une goutte d'eau dans l'océan. » Et je te pose la question notamment parce qu'on a vu récemment avec le scandale des avions qui volent à vide. Je ne sais pas si vous aviez suivi ça, mais pendant des mois, il y avait toute une campagne dans la société pour dire « on prend moins l'avion, il faut faire baisser le trafic aérien, etc. » Ok, super. Et comme du jour au lendemain, le coronavirus a fait baisser drastiquement le trafic aérien, puis personne ne voyage. Et pourtant, on découvre que les avions volent à vide parce qu'il y a une règle de « use it or lose it » qui fait que les compagnies aériennes continuent à faire voler à vide certains de leurs appareils pour conserver leurs créneaux. Et un truc comme ça, moi, ça m'a évidemment choqué et m'a fait prendre conscience que c'était la limite du changement par les habitudes de consommation individuelle. Que même si on décidait de boycotter tous ensemble en même temps un mode de transport, ce qui n'arriverait pas spontanément, c'est bien parce qu'on y a été contraint que ça se passe comme ça, on se rend compte que comme les avions volent quand même, ça ne change pas, ça fait baisser le trafic, c'est ce qu'on voulait, on est d'accord, mais il y avait un plancher auquel... j'ignorais que ce plancher existait d'ailleurs. Donc il y a vraiment ça m'a fait perdre un peu confiance dans ce qui auparavant était chez moi une conviction, à savoir le changement, ça doit venir d'en haut, mais ça doit aussi passer par nous. Ouais, je suis moyennement convaincue du coup que ça peut encore passer par nous. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui raisonnent comme ça. Qu'est-ce que tu leur réponds ?
À la petite phrase en elle-même, le « à quoi bon ?» Perso, moi, je trouve ça très triste et angoissant. Donc, c'est peut-être juste pour gérer mes angoisses et mes névroses que je fais ça. Mais me dire qu'en fait, rien de ce que je fais ne pourrait avoir d'impact, je trouve ça très flippant. mais du coup, c'est un taf aussi qu'on fait avec Ethical Advisor, que je fais en essayant de publier de temps en temps des articles avec des bonnes nouvelles. C'est un peu le même taf que celui que fait Esther avec ses bonnes nouvelles du féminisme. En fait, c'est pour se dire, bon, des fois, c'est un peu, on est un peu pris de court, on a un peu l'impression que ça sert à rien, et pourtant, il se passe des trucs. Ça va, enfin, je comprends que ça puisse être frustrant, je sais qu'il y a un truc à vachement tourner aussi, c'est la notion de trier ses déchets, alors qu'en fait, on se rend compte que finalement, à la fin, dans certains endroits, tout part au même endroit, donc à quoi bon trier ses déchets ? Ce que j'ai envie de répondre à ce genre de réflexion, c'est si parfois on a l'impression que ce qu'on fait ne compte pas, on peut aussi se dire que si on le faisait pas, ce serait encore pire. C'est comme, enfin, je sais pas, je me dis, ça sert à rien que je m'embête à, je sais pas, à faire du compost chez moi directement plutôt que d'acheter de l'engrais, parce que de toute façon, quand je vais chez Truffaut, je vois que c'est des litres et des litres et des litres qui sont achetés chaque jour, donc ça fait pas grand-chose. Sauf que je me dis, oui, mais sauf que si en fait, moi, j'avais pas fait mon compost et que j'achetais du terreau, ça ferait 10 litres de plus qu'auraient été achetés. Et dans ce cas-là, j'aurais eu un impact clairement positif, enfin, clairement et de manière tangible, plus négatif que si je l'avais pas fait. Du coup, je me dis, voilà, c'est si on le faisait pas, ce serait encore pire. Donc, autant le faire.
Ok, bah merci beaucoup Yuna pour cette présentation de Ethic Advisor. Je vais évidemment mettre dans les notes du podcast les liens pour aller sur le site, pour télécharger l'application, pour toutes celles et ceux qui veulent en savoir plus. Et alors vous avez aussi un compte Instagram, je me trompe pas ?
Tout à fait.
Voilà, donc toutes les occasions sont bonnes pour pouvoir vous poser des questions, interagir avec vous. Mais j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi maintenant, plus sur ton parcours personnel. Est-ce que tu peux nous parler de ta première indignation ?
Oui, en fait, j'ai vraiment passé... j'ai appris à 24 heures que j'allais faire cette interview. J'ai vraiment passé les 24 dernières heures à essayer de trouver une réponse à cette question. Ça a fait remuer pas mal de trucs, mais une des choses qui peut paraître anecdotique, mais qui m'a vachement marquée, c'était au collège, en cours d'anglais. On m'a demandé de faire une phrase où on parlait des araignées. Et il fallait que je voulais dire que les araignées mordaient, car les araignées mordent. Je l'ai dit en anglais, et la prof m'a reprise en me disant, non, on ne dit pas bite, on dit sting. Donc on ne dit pas mordre, on dit piquer. Et du coup, madame, non. une araignée, en fait, ça a plusieurs... Enfin, ça a des... Je ne sais pas si on appelle ça des mandibules, mais voilà, en gros, j'avais essayé... tant bien que mal, d'expliquer le fait qu'une araignée, ça mordait et que ça piquait pas. Elle n'a rien voulu savoir, elle m'a dit que j'avais mal répondu à la question, que je m'étais trompée de verbe, et on est passé à autre chose, et je pense que j'ai passé ces 15 dernières années à ronger mon frein sur cette envie de dire... Enfin, en fait, je me suis rendu compte que des fois, on a raison, et pourtant, on gagne pas. Je pense que l'indignation, elle est venue surtout du fait que j'avais des arguments. J'étais capable d'expliquer ce que j'avais en tête, c'est ce qui était une réalité biologique. Même pas, c'était pas un avis, c'était un fait. Et parce que argument d'autorité, parce que on n'avait pas le temps, parce que je sais pas, on m'a présenté comme quelqu'un qui avait faux et qui s'était trompé. Et je pense que ça m'a un peu suivie pendant. Tout le reste de ma scolarité et de ma construction, qui en fait, je me suis rendu compte que... Enfin, mon indignation vraiment venait du fait qu'il ne suffisait pas d'avoir raison. Et c'est assez perturbant quand on s'en rend compte. Alors là, c'était avec un petit exemple à la con en cours, mais c'est un truc qu'on voit assez bien au quotidien aussi. Et voilà, c'est vraiment la première chose qui m'est venue en tête en réfléchissant à ça.
Et à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte qu'en défendant des idées, tu pouvais pas faire l'unanimité et tu l'as géré comment ?
J'ai essayé de trouver un moment précis, j'en ai pas trouvé, mais je pense que c'est une construction de toutes ces fois où j'ai compris qu'en fait certaines personnes n'avaient juste rien à faire de ces choses qui me semblaient des luttes de base. En fait, c'est me rendre compte que des choses qui m'animent moi et qui sont des choses pour moi qui m'animent au quotidien de manière normale, en permanence, de manière sous-jacente, un peu implicite, que je traîne un peu en permanence avec moi, en fait, il y a juste certaines personnes qui n'en ont rien à faire. Je sais pas, que ce soit du féminisme, de l'écologie, du véganisme, il y a juste... En fait, je me suis juste confrontée non pas à des gens qui étaient pas d'accord avec moi, parce que ça, c'est plus simple à gérer, parce qu'en fait, c'est juste des gens avec qui, du coup, j'ai des discussions. Le truc a été un peu plus difficile à essayer de prendre en compte, c'est le fait que, vraiment, il y a des gens qui s'en foutent. Et ça me... Pour une personne qui est hyper animée par ce genre de choses, ça peut sembler improbable, et pourtant ça existe. Et du coup, honnêtement, j'apprends encore à essayer de gérer ça autrement que par la colère, car spoiler alert, ça ne fonctionne pas. Et voilà, c'est vraiment le fait de ne pas faire l'unanimité, c'est surtout sur le côté qu'est-ce qui est important pour les gens et qu'est-ce qui les anime en tant que lutte à très petite comme très grande échelle.
C'était quoi ton déclic pour passer de l'idée à l'action et comment t'as choisi ton mode d'action ?
Je pense que j'ai toujours voulu faire quelque chose qui compte. En tant que petite anecdote rapide, je me souviens avoir vu ma maman à la télé quand j'étais gamine. Ma mère est instite et elle a milité pour empêcher la fermeture d'une cinquième classe d'une école rurale. Et je me souviens que le seul truc que j'avais réussi à dire, c'était « c'est bien, t'es passé à la télé ». Alors qu'en fait, ce qui est du haut de mes, 5-6 ans peut-être, sauf qu'en fait, déjà à l'époque, ce que je trouvais hyper impressionnant, c'était qu'elle avait décidé de dire les choses et de se bouger pour que ça arrive. Et du coup, je pense que c'est vraiment une construction depuis toute gamine, depuis que je vois mes parents faire des choses. Et plus récemment, en fait, j'ai fait beaucoup de covoiturage pendant un moment, j'en faisais toutes les deux semaines. Et en fait, je pense une personne sur deux avec qui je covoiturais, c'était un quarantenaire qui venait de faire un burn-out et qui décidait d'arrêter de bosser chez SFR et qui commençait à vendre des plantes aux particuliers dans une petite production locale. Et en fait, je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir besoin de faire de crise de la quarantaine. Pas forcément du côté... perso, enfin du côté pro en tout cas, pas avoir besoin de me dire mince, j'ai perdu tant de temps à faire des choses qui n'avaient pas de sens. Du coup, je me suis dit dès le début, je sais que je vais passer pas mal de temps à travailler, autant faire en sorte que ce temps-là, qui va prendre une bonne grosse part de ma vie, il soit efficace et il soit en accord avec mes valeurs. Et j'ai réfléchi à ce pourquoi j'étais un peu douée. Et here I am. Voilà.
Et du coup, en passant à l'action, donc y compris à travers ton métier, c'est un truc que tu fais du coup vraiment au quotidien, de les défendre, tes idées. Est-ce que parfois tu doutes d'elles ou de ta manière de les défendre ?
Ouais, bien sûr. Ça m'arrive assez régulièrement de me dire que les autres font mieux que moi, que les gens le font plus que moi, que les gens le font de manière plus intelligente, de manière plus impactante, que peut-être que je pourrais faire plus ou faire différemment. Et après je m'assois, je respire et en fait je me rappelle que chaque révolution compte et qu'en fait pour chaque lutte au sens très large du terme il y aura forcément des gens qui seront uniquement dans la petite action au quotidien avec un cercle proche, d'autres qui seront dans l'action un peu plus violente avec de gros guillemets qui vont plus descendre dans la rue, d'autres qui vont décider d'en faire des articles. Donc il y a tout un tas de manières de faire les choses et j'essaye de pas trop me dire qu'il y a des manières qui sont meilleures que d'autres.
Je voudrais qu'on parle un peu plus de politique. Si je te dis politique, le terme politique, à quoi ça te fait penser ?
Très clairement à mon éducation. En fait, la politique, je vois vraiment ça comme une construction. J'ai été baignée dans la politique très très jeune, quasiment tous les soirs on mangeait devant le JT et j'avais mon père qui se qui se plaignait face aux journalistes qui, voilà, qui parlaient à la télé dans le vide pour dire que c'était n'importe quoi et qu'il fallait faire quelque chose, etc. Très tôt, j'ai été baignée dans l'importance de la politique, au sens très large du terme, hein, puisque, comme je disais avec Etiquette Vazor avant, clairement, tout acte est politique. Et au sens plus classique du terme, politique, donc avec les politiques, il y a une réponse toujours de mon cher père, une anecdote qui m'a vachement marquée. Il m'avait raconté qu'il y avait des témoins de Jéhovah qui étaient venus frapper à la porte. Et en gros, il demandait à mon père s'il votait. Il a répondu que oui. Ils leur ont demandé du coup, est-ce que ça, vous avez l'impression que ça a servi à quelque chose pour le moment ? Il a répondu non, et c'est pour ça que je revote. Donc voilà, je pense que la politique, ça a toujours été un truc hyper, hyper présent et hyper important, que ce soit dans une construction personnelle ou dans un activisme au sens plus large.
Et toi, en particulier, justement, t'as un premier souvenir politique. Enfin, là, t'as parlé de choses un peu diffuses, mais un truc vraiment qui t'a marqué, qui t'a fait prendre conscience de l'importance de ça.
En fait, toujours en dualité de politique diffuse et politique plus classique du terme. En tant que construction, moi, j'ai grandi avec, dans la voiture de mon père, un pin's jaune fluo sur lequel il était écrit « Quelle connerie la guerre ». Et je pense que c'est quelque chose qui me marque encore, je le vois vraiment. Donc si je m'en souviens encore aujourd'hui, j'imagine que c'est parce que ça a eu un impact sur la personne que je suis aujourd'hui. Donc déjà, je pense que ça, c'était un souvenir politique, vraiment. Et sinon, celui qui m'a vraiment marqué clairement et très précisément, c'est... J'étais toute jeune à ce moment-là, mais c'est le jour où Jean-Marie Le Pen est passé au deuxième tour des élections présidentielles, le jour de l'anniversaire de ma mère. Je me souviens qu'on était... j'étais petite, on était autour d'une table et en train de passer normalement un bon moment pour fêter un anniversaire. Et il se trouve qu'en fait, je me souviens juste d'un état un peu de sidération, de confusion, et le lendemain d'énormément de gens dans les rues. Et voilà, pour un souvenir plus précis, je pense que si je remonte dans le passé, c'est un souvenir très précis de souvenir de politique.
J'avais pas du tout anticipé quand on a préparé ce questionnaire avec Esther que je pense que toute une génération a été énormément marquée par ce jour-là. Et je pense que pour beaucoup de gens, le premier souvenir politique, c'est celui-là. Moi, j'étais dans la rue, parce que moi, j'avais déjà 16 ans à l'époque, donc je faisais partie des gens qui étaient dans la rue. Yuna, on vit une époque formidable. Non, je déconne. C'est plutôt la crise. Comment ce présent si étrange, je parle du confinement, bien sûr, de la crise du coronavirus, pour les gens qui écouteraient éventuellement ce podcast depuis une dimension parallèle ou un futur très lointain, est-ce que ce présent si étrange influence ta vision de l'avenir ?
Très honnêtement, tout le temps que je ne passe pas à gérer le crowdfunding qu'on a en ce moment, j'essaye de le passer à... faire un petit focus développement personnel, histoire de pas juste ouvrir la fenêtre et crier très fort ou me rouler en boule dans un coin au choix. Mais du coup, ouais, en fait, je suis partagée entre les choses que j'ai envie de brûler quand j'ouvre Twitter trop longtemps et cette immense espoir d'après avec clairement si je bossais pas pour Etiquette Vazor, j'aurais peut-être pas cette vision là mais en fait quand je vois toutes les choses qui sont en train de se faire et qui sont encore hyper d'actualité en ce moment mais qui seront encore plus d'actualité à la sortie du confinement, je me dis qu'il y a moyen de faire quelque chose en fait. C'était déjà prévu, je pense que dans tous les cas il allait se passer quelque chose et je pense que ça va, j'espère en tout cas que ça va être accéléré par tout ça. Et pour la petite anecdote, quand j'ai pris mes notes, j'ai pris mes notes pour répondre à cette question dans la nuit, et j'ai noté, j'espère surtout qu'on va se bouger le cul bientôt. Voilà.
Alors justement, pour se bouger le cul, toi, quand t'as commencé à te bouger le cul, est-ce qu'il y a un truc avec le recul où tu te dis « Ah putain, ça, si je l'avais su plus tôt, j'aurais gagné du temps ».
Ce que j'aurais aimé savoir... En fait, ça va tourner pas mal autour du travail parce que même si je me considère comme activiste au quotidien, c'est surtout via mon travail que je peux avoir un impact. Et c'est surtout, j'aurais aimé savoir dès le début que j'allais pas être efficace tout le temps et que c'était pas grave. Et du coup, tout le temps que j'ai passé à ruminer le fait que j'étais pas en train d'être assez efficace, que j'étais pas en train... En fait, tout le temps que j'ai passé à m'en vouloir de pas être en train de faire un truc, j'aurais pu le passer à juste me dire « c'est pas grave » et à m'enrichir d'autres choses pour nourrir toutes mes connaissances, toutes mes relations... Et pour pouvoir revenir encore plus forte quand j'étais en train de faire des choses que j'appelle efficaces, dans le sens travail avec un impact sur le monde et pas juste sur moi-même.
Bah effectivement, il y a plein de manières d'avoir un impact et parfois il faut commencer par soi. Toi justement, dans les trucs qui t'ont nourri, est-ce qu'il y a un livre que t'aimerais relire, redécouvrir pour la première fois et donc tu peux conseiller aux auditeurs et aux auditrices de ce podcast ?
Oui, il est assez connu, mais moi j'ai vachement été touchée par la trilogie des fourmis de Bernard Weber. En fait, je l'ai lu. Enfin, ceux qui me connaissent le sauront, car je me suis carrément fait tatouer une fourmi sur le bras. Mais en fait, je l'ai lu quand j'étais gamine, et je l'ai relu en tant que jeune adulte, donc il y a quelques années. Et je me suis rendu compte que le fait de l'avoir lu quand j'étais gamine avait façonné la manière dont je voyais les choses aujourd'hui. Du coup, j'aimerais bien recommencer cette expérience, d'oublier le fait de l'avoir lu et avoir un œil neuf sur tout ça.
Et pour terminer, j'aimerais te demander, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dit « Désolé, j'ai pas le courage de me lancer là-dedans »
Je comprends, en fait. Je comprends que ça puisse être un peu overwhelming. Je vais faire ma connasse de bilingue, mais j'ai jamais trouvé de vrais mots aussi puissants en français. En fait, c'est vraiment... Je comprends que ça puisse être beaucoup, que ça puisse être trop, et sauf que je pense que ce qui amène cette vision de la chose, c'est en fait une mauvaise définition de se lancer là-dedans, parce qu'en fait, ça peut vouloir dire plein de choses. Je comprends que ça puisse être compliqué de se dire « bon, je monte sur une estrade et je commence à faire la révolution ». Sauf que il y a plein d'autres choses à faire et en fait se lancer là-dedans, ça peut juste être aussi une attitude qu'on choisit d'avoir au quotidien. Moi ma bio Instagram, Twitter, tout ce que vous voulez, c'est vegano gaucho écolo féministe. C'est quelque chose que je traîne au quotidien et qui en fait est juste diffus autour de moi, mis à part ce que je fais quand je travaille. Du coup, voilà, j'estime que j'ai autant un impact quand j'écris des gros articles de fond sur la Ticketizer que quand, en fait, je parle de temps en temps de véganisme, de végétarisme à des proches et qu'en fait, ils m'envoient une photo de falafel tout content une semaine après en me disant « Bon, on a fait végé aujourd'hui, c'était trop bon, on va réessayer, voilà. » Donc, je pense que se lancer là-dedans, ça peut aussi être juste ça. Et si l'envie de faire quelque chose de plus concret, c'est une vraie envie. Je pense que ça peut être une réflexion, se demander ce pourquoi on est doué ou ce qu'on aime faire et s'en servir un maximum pour essayer d'avoir un impact, que ce soit bien écrire, bien parler, bien dessiner, savoir construire un truc, savoir avoir un talent d'orateur quelconque. Voilà, dans tous les cas, il y a moyen de faire quelque chose.
Eh ben, merci beaucoup Yuna pour avoir répondu à l'interview des activistes. Merci de nous avoir présenté le projet Ethic Advisor qui a donc en ce moment une campagne de crowdfunding. On va bien évidemment mettre le lien dans la bio pour toutes celles et ceux qui seraient intéressés pour en savoir plus. Merci beaucoup Esther.
Merci à toi aussi Clémence.
Abonnez-vous à la chaîne de Esther Reporter, c'est vachement bien. En plus, elle publie des bonnes nouvelles du féminisme de temps en temps, ça fait toujours plaisir.
Et oui, y compris en temps de coronavirus, figurez-vous, même si elles sont moins faciles à trouver.
Merci beaucoup, bonne journée.
À bientôt, merci à vous.
Je suis pas sûre de garder un bonne journée, mais si, ça m'a échappé. Alors attention, maintenant, personne ne fait de bêtises en appuyant sur pause.
Oui.
Vous êtes un ou une activiste dans l'âme ? Écrivez-nous à tutoconquérirlemonde@gmail.com pour nous parler de votre projet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller l'écrire sur iTunes dans un commentaire accompagné de 5 étoiles. Ça nous aide grandement à faire connaître cette émission. Ça nous aide encore plus si vous envoyez le lien à vos proches susceptibles d'être intéressés. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine. Activiste est une émission d'interview porte-à-projet de celles et ceux qui changent le monde en commençant tout autour d'eux. Activiste est entièrement réalisé, produit et présenté par Esther Meunier, alias Esther Reporter, sur YouTube et sur Instagram, et moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les Impertinentes, sur Instagram @conquérir.le.monde et dans ma newsletter bit.ly/clembodoc. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine.